Vous écoutez
RMC. RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. On embrasse Jérôme et toute la Dream Team. Tout le monde sera de retour lundi 5 janvier, lundi prochain à partir de 18h pour une deuxième partie de saison de folie. Une année qui va nous mener jusqu'à la Coupe du Monde 2026. RMC, on est la radio officielle. Vous n'allez rien rater en écoutant RMC. La suite donc des meilleurs moments de Rotten sans flamme à 19h45, la tradition du quiz avec deux quiz qui ont été très forts en émotion cette saison, l'un avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco, l'autre avec Pascal Olmeta et Jean-Michel Larquet. À 19h30, vous connaissez là aussi la différente séquence, la VAR de Rotten sans flamme. Pierre Sage fait-il des miracles à Lens? Lens qui fait une très bonne première partie de saison. Et puis on avait accueilli Éric Roy le 20 octobre dernier, qui revenait sur la saison fantastique du Stade Brestois avec cette première épopée européenne. Mais tout de suite, on parle du Ballon d'Or. Ousmane Dembélé.
Ballon d'Or.
Ousmane Dembélé, Lamine Yamal, qui va gagner?
Dembélé.
Ça a été une année incroyable avec le Paris Saint-Germain. C'est vraiment une famille incroyable. Ils ont été exceptionnels depuis le premier jour.
J'ai pas de mots.
Le président Nasser, c'est comme un papa pour moi.
C'est un grand soir pour lui, bien évidemment. C'est un succès de la France aussi, à travers le parcours et ce qu'a réalisé Ous.
L'entraîneur Luis Enrique, qui a été exceptionnel avec moi. Lui aussi, c'est comme un papa pour moi.
Dembélé.
À l'époque, tous ceux qui l'ont vu jouer, on savait qu'Ousmane ferait une grande carrière, sauf s'il y avait des blessures. Mais ce qu'il savait faire à 10, 11, 12 ans, c'était hors norme déjà.
L'un de ses premiers critères, c'est la vitesse. Alors même s'il va un peu moins vite, il va quand même déjà beaucoup vite.
Je plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé.
Le grand moment est arrivé pour Ousmane Dembélé. Le Parisien devenu le sixième joueur français à décrocher le Ballon d'Or après Raymond Coppa, Michel Platini, Jean-Pierre Papin, s'il vous plaît, qui est là. Et Zinedine Zidane et Karim Benzema. Dembélé, 28 ans. Il devient le 10e joueur de l'histoire à faire le triplé magique. Coupe du Monde, Ligue des Champions, Ballon d'Or. Donc ça vous classe un homme. Fabrice Hawkins avec nous. Il était hier au théâtre du Châtelet. Salut Fabrice.
Salut les gars.
Salut Fabrice.
Bah, raconte-nous les coulisses de cette soirée magique alors Fabrice.
Bah, d'abord, ce qu'il faut dire, c'est que, mis à part quelques salariés du magazine France Football, personne à ma connaissance ne savait avec certitude qui allait remporter le Ballon d'Or. Donc l'effet recherché a fonctionné. Ah ouais. Il y avait du suspense jusqu'au bout. J'avais pas très loin de moi certains de ses proches qui vraiment jusqu'au dernier moment ne savaient pas si c'est lui ou Lamine Yamal qui allait gagner. Et c'est vrai que l'explosion de joie est bien témoignée de cette sincérité-là du moment. La cérémonie s'est plutôt bien passée. Hein. Il y a eu quelques petits imbroglios au niveau des sièges, notamment au premier rang. Mais bon, ça s'est très vite réglé et c'est très vite rentré dans l'ordre. Tout le monde n'avait Dieu que pour Ousmane Dembélé. Finalement, son discours quand il a reçu le trophée a ému la salle. Le numéro 10 a pu apprécier sa nouvelle cote de popularité derrière, avant même de sortir du théâtre du Châtelet. Dans les couloirs, une nuée d'invités s'est amassée autour de lui. C'était vraiment assez impressionnant. Ça m'a rappelé quand Karim Benzema ou Lionel Messi recevaient le Ballon d'Or et qu'ils avaient du mal à se frayer un chemin pour sortir, tant il y avait bien de personnes qui voulaient prendre des selfies, qui voulaient les féliciter tout simplement. Il était ovationné. Bien entendu, certains chanceux, certains supporters du collectif Ultra Paris ont même pu toucher le Ballon d'Or dehors, puisqu'il leur a tendu, ils ont pu effleurer donc ce trophée. Ensuite, Ousmane Dembélé a pris la direction d'un restaurant du 8e arrondissement de Paris, près des Champs-Élysées, pour aller fêter avec ses plus proches, avec ses amis d'enfance, en passant par des éducateurs, certains de ses anciens coéquipiers aussi. Et puis aujourd'hui, c'est le lot aussi des Ballons d'Or, une journée très chargée pour lui, des interviews toute la journée, un gala aussi du club pour sa fondation ce soir, donc 48 heures très très mouvementées pour le 6e Ballon d'Or français.
Merci Fabrice, Rotten se chauffe. Est-ce que Dembélé a changé de dimension hier soir 32-16 pour participer avec nous?
Tout ce que vient de nous raconter Fabrice sur la soirée, la suite, l'après Ballon d'Or, forcément c'est plus le même aujourd'hui. Du moins, tu donnais son palmarès tout à l'heure, c'est incroyable,
tout gagné.
Ce mec-là a tout gagné. Il revient de loin parce que en effet entre les choix de club, son inconstance, ses blessures, son transfert à Paris qui avait fait un peu parler en disant que voilà, il était dans l'ombre des plus grands des joueurs qu'il y avait eu avant, que ce soit Neymar, que ce soit Messi, que ce soit Mbappé parce qu'il était avec lui. En effet, il était toujours déclassé par rapport à ces joueurs-là. Eh ben aujourd'hui, il a pris le relais, du moins. Et quel relais, c'est fantastique, il a emmené tout le monde. Donc forcément cette année, elle est incroyable. Je sais pas, parce que ça on le sait jamais, c'est la magie du football aussi. On ne sait pas s'il sera capable de refaire la même chose cette année, d'emmener les autres, d'être aussi performant, d'être aussi efficace. En tout cas, je lui souhaite.
C'est son souhait.
Mais oui, c'est son souhait. Je sais qu'il a beaucoup d'humilité là-dedans. Moi, j'ai parlé avec lui dernièrement encore pour rien trahir, mais j'ai senti quelqu'un de avec une humilité incroyable quand tu vois le palmarès et le joueur qu'il est. Donc la remise en question, il l'a fait, elle est naturelle pour lui. Je suis même persuadé qu'aujourd'hui c'est tellement un rêve pour lui. On l'a vu ses explications, les échanges avec son agent, sa mère et ses amis proches. Tu sens que pour lui, il se sent même pas Ballon d'Or, il se sent même pas le meilleur joueur de la planète foot, tu vois. Et pourtant,
il a du mal à le dire.
Il l'est. Non, mais pourtant, il l'est. Ouais. Donc, il en profite. Mais c'est aussi un bien qu'il soit comme ça, parce que c'est la meilleure façon de tirer le maximum de Ousmane Dembélé encore cette année pour le Paris Saint-Germain. Et si le PSG veut de nouveau enchaîner les victoires comme ça a été le cas l'année dernière, ça passera. Et moi, je le disais l'année dernière. Alors tant mieux, ça a souri au PSG, ça a souri à Ousmane et ça m'a donné raison. Mais le PSG ne pourra pas gagner la plus belle des compétitions sans un grand Ousmane Dembélé qui emmènera les autres. Parce que c'est pour ça que depuis le début, je disais, mais il n'y a pas photo avec tous les autres joueurs déjà du Paris Saint-Germain dans l'importance des titres gagnés, des performances du PSG.
J'ai dit la rédaction de France Foot, il n'y a pas eu photo. Hein.
Mais non, mais
une victoire large de
Ousmane Dembélé. Non, mais sans parler de Yamal, parce que ça après. C'est deux positions différentes, des joueurs différents et tout ça. Mais pour parler des joueurs, il y en avait beaucoup qui postulaient à la gagne pour le Ballon d'Or au Paris Saint-Germain.
9.
Achraf Hakimi l'avait dit. La preuve, c'est que Achraf, il est 6e et Vitinha est 3e. Mais en effet, même il y avait peut-être pas une guéguerre, mais en interne entre les joueurs qui se disaient ah tiens moi je peux le gagner parce que j'ai fait une année incroyable. Et moi je reste persuadé que la position d'Ousmane Dembélé sur le terrain et tout ce qu'il a apporté, et surtout quand tu vois avec l'efficacité qu'il a amené, forcément ça le fait passer sur dans une autre dimension. Du moins aujourd'hui là c'est la dimension des 6 ballons d'or qu'on a eu français.
On en a un avec nous, Jean-Pierre Papin. Jean-Pierre, comment t'as vécu cette soirée hier? Est-ce que t'étais ému de voir Dembélé récompensé comme ça?
Alors, j'ai été ému par son discours déjà, parce que je pense qu'il y avait beaucoup de... Alors, il y avait beaucoup de tristesse, il y avait beaucoup de joie, il y a beaucoup de tristesse. Et moi, j'étais beaucoup ému. Après, sur le fait qu'il ait changé de dimension, quand t'as ce trophée, bien évidemment, tu
es plus le même.
T'es incité à aller jouer ailleurs quand même, mine de rien. Après, je pense que le plus dur va commencer pour lui, parce que quand on est Ballon d'Or, après, il faut assumer. Il faut assumer. Les autres te regardent plus de la même manière, ne jouent plus comme toi de la même manière. Par contre, lui, il faut pas qu'il change. Il faut qu'il soit essayer qu'il soit le même, qu'il soit aussi efficace, aussi important dans l'équipe. Peu importe l'équipe, que ce soit l'équipe de France, que ce soit l'équipe du PSG. Mais effectivement, ce trophée-là, il te donne. Autre chose.
Parce que Jean-Pierre, je vais rappeler ton histoire. T'es Ballon d'Or 91, largement remporté d'ailleurs ce Ballon d'Or. C'est l'année où l'OM fait finale de Ligue des Champions, finale perdue contre l'Étoile Rouge de Belgrade. Ouais, et je regardais surtout ta saison d'après. Tu fais une saison magnifique. Tu fais 54 matchs, 47 buts. T'es présent sur toutes les compètes. Toi, tu l'as bien digéré finalement ce Ballon d'Or. T'as réussi à enchaîner après ce trophée individuel.
Alors, je sais pas dans quel état d'esprit était Ousmane. Est-ce que quand on a commencé à lui dire que il avait une potentialité qu'il soit Ballon d'Or, est-ce qu'il l'a pris vraiment au sérieux? Parce que moi, en fait, j'ai jamais pris au sérieux quand on a commencé à me dire tu vas être Ballon d'Or, etc.
Il prenait un peu à la rigolade, simplement pour te répondre, Jean-Pierre. C'est vrai qu'il prenait un petit peu à la rigolade. Beaucoup de ses coéquipiers lui disaient au Paris Saint-Germain, en équipe de France, déjà au rassemblement du mois de mars, ils allaient le voir et lui disaient mais tu vas être Ballon d'Or, Ousmane, tu le sais ça. Et il rigolait un petit peu, sans trop y croire. Il a toujours mis le collectif en avant et c'est ça aussi qui est beau. Et avant la finale et avant la victoire en Ligue des Champions, il a jamais vraiment voulu y croire.
Ben en fait, c'est un peu comme moi, c'est-à-dire que aussi bien lui que moi, on n'a jamais joué pour être Ballon d'Or. Par contre, par rapport à ce qu'on a montré sur le terrain, à l'efficacité qu'on a eu, le rôle qu'on a eu, ben on est devenu Ballon d'Or et on devient Ballon d'Or. Celui qui dit qu'il va être Ballon d'Or en début de saison, sincèrement, c'est un gros mytho. À moins de jouer dans une grosse équipe, d'être sûr d'être champion, d'être sûr d'être en équipe nationale, d'être sûr de gagner la Ligue des Champions. Voilà, c'est un gros mytho. Mais par contre, quand t'es bon, tu te prends pas la tête, t'es le leader de ton équipe, tu deviens Ballon d'Or. Et quand tu deviens Ballon d'Or, c'est que tu l'as mérité. Et Ousmane l'a mérité.
Jean-Michel, est-ce qu'il change de dimension, Ousmane Dembélé, alors?
Bien sûr, et puis ça fait du bien, parce que sur la réaction que j'ai vu hier, c'est un gamin normal, gamin de 28 ans, mais un gamin normal. Qui a des émotions, qui se la joue pas, et qui sait que tout va très vite dans le football. Je rappelle quand même qu'il y a 3 ans de cela, il avait été mis au rencard, c'est ça, hein, c'était à peu près il y a 3 ans, non,
au Barça. À Barcelone, c'était compliqué à la fin.
Il a été mis au rencard. Et puis, comme le dit si bien Jean-Pierre, tu ne rêves pas d'être Ballon d'Or, tu le deviens par le fait du hasard d'avoir été replacé dans l'axe du terrain l'an passé. Je signale quand même qu'il y a que la saison précédente son sacre Dembélé, on fustigeait quand même c'est son manque de précision dans la dernière passe, son peu de réalisme devant le but,
et tout le monde disait toujours seul, quand il sera réaliste il gagnera le Ballon d'Or.
Exactement, parce que
quand il sera réaliste il deviendra l'un des meilleurs. Bon, il est arrivé Ballon d'Or, mais moi hier c'est sa, comment dirais-je, sa fraîcheur. C'est quelqu'un qui amène de la fraîcheur dans le football par rapport à tous ces, comme l'a dit si bien Jean-Pierre, mais il est mieux placé que quiconque pour en parler, par rapport à tous ces mythos qui te disent oui, moi j'en ai rêvé, je l'ai fait, c'est formidable. Qu'est-ce que ça, rêver d'être Ballon d'Or?
Tu peux en rêver gamin, Jean-Michel, quand même.
Mais non, tu rêves pas. Tu rêvais même pas d'être footballeur professionnel. Ça arrive comme ça. Et donc, tu as des étoiles.
Mbappé, il rêvait pas gamin d'être Ballon d'Or, Jean-Michel?
Alors, c'est pas le terme juste qu'a employé Jean-Pierre JP, si rêvait à 11 ans d'être Ballon d'Or. Enfin, je n'en sais rien. Mais je ne peux pas l'imaginer. Alors, honnêtement, je ne peux pas imaginer. Voilà, comme le mec qui s'est
entre
dit.
Entre nous, les amis, on ne peut pas être Ballon d'Or tout seul.
Ah non, mais ça
quand,
c'est sûr.
Quand t'es Ballon d'Or, c'est que tu joues dans une grande équipe, c'est qu'autour de toi, t'as des joueurs qui sont capables et de très très bien défendre et de très bien donner le ballon pour que tu puisses marquer des buts. Et tout seul, tu n'arrives à rien.
Et dans ton choix de carrière, Jean-Pierre, quelquefois, tu choisis le bon club, quelquefois, tu n'as pas de chance, tu n'es pas dans le bon club. Et voilà.
Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, parlons de ça sur le changement de dimension. On est d'accord qu'au PSG, il est installé, c'est le joueur majeur, et là, il n'y aura pas de souci. Est-ce qu'il va changer de statut en équipe de France? Est-ce qu'il ne devient pas un joueur aussi important que Mbappé en équipe de France?
Attends,
est-ce que ce Ballon d'Or, ça ne le fait pas changer de dimension en équipe de France?
Benoît, aujourd'hui, la réalité, c'est que par rapport à son état d'esprit, Ousmane ne sera jamais Kylian Mbappé. Je te vois arriver. Kylian Mbappé, il est capitaine de l'équipe.
Non, mais il pose la bonne question.
Oui, mais la bonne question, elle est très simple. C'est à Didier Deschamps de gérer ça. Mais Didier Deschamps, aujourd'hui, il est obligé de prendre en compte qu'il a le Ballon d'Or dans son équipe. Donc, si tu as le Ballon d'Or dans ton équipe, il faut le faire jouer dans la position préférentielle.
Un jour, dans Rotten sans flamme, il y en a un qui a dit qu'éventuellement, ce serait pas mal d'avoir une attaque Doué à droite, Mbappé à gauche et Dembélé dans l'axe. On l'a pris pour un fou.
C'est qui?
Je sais pas, je me rappelle.
Vas-y Fabrice, tu voulais pour apporter une précision.
Non mais oui,
en Bacola, vous mettez où?
Je pense que ça se joue entre à deux niveaux déjà quand on parle d'Ousmane Dembélé en équipe de France, son nouveau statut par rapport à ses coéquipiers, je pense qu'il a énormément changé depuis plusieurs mois maintenant, il le voit comme un vrai leader. Ensuite par rapport à son positionnement, évidemment c'est Didier Deschamps qui va trancher. Je pense qu'il a quelque chose qui est positif, c'est-à-dire que Ousmane Dembélé et Mbappé s'entendent bien et ça c'est quand même un point positif. Maintenant, on a tous constaté que la position préférentielle d'Ousmane Dembélé était aussi en pointe, dans un rôle de numéro 9.
Et tu dois être un patron en équipe de France. C'est
exactement.
Ça le truc.
Exactement. Et moi, à titre personnel, encore une fois, ça n'engage que moi, mais je vois mal Didier Deschamps mettre Kylian Mbappé ailleurs pour repositionner Ousmane Dembélé dans l'axe.
Mais là où tu as joué à gauche.
Non, mais là,
je pense pas que ce soit d'actualité.
Là où Fabrice a raison, et il y a juste à regarder les matchs avec l'équipe de France. Alors, c'est sûr qu'il y a eu les blessures dernièrement et tout ça, mais si tu remontes un petit peu, c'est juste sur l'année dernière, qui est la meilleure année de la carrière d'Ousmane Dembélé en équipe de France. Ça manque d'impact. Et pourquoi ça manque d'impact? C'est pas faute juste aux joueurs, c'est juste dans quelle position il est mis. Est-ce que il est mis en priorité? Est-ce qu'il ressent cette confiance du sélectionneur comme il a la confiance de Luis Enrique? Moi, je pense qu'il y a quelque chose.
Le sélectionneur n'évitera pas la question. En tout
non,
cas.
Mais je pense qu'il y a quelque chose à aller.
C'est son principal enjeu.
Il y a quelque chose à aller gratter là-dessus, parce que la vérité, c'est que ce n'est pas normal que, par exemple, Yamine Yamal.
Lamine Yamal,
qui aurait pu être Ballon d'Or aussi parce qu'il a il a fait une saison incroyable, mais que Yamal soit aussi performant avec l'Espagne parce que c'est la tête d'affiche de l'Espagne et que Ousmane Dembélé soit inférieur à Yamal avec la sélection, alors qu'on a quand même pas une sélection cacahuète nous. On a des bons joueurs partout. On est une équipe qui est capable, et on l'a vu encore dernièrement, qui est capable d'imposer son style. Donc, j'imagine quand même que Didier Deschamps, il doit évoluer dans ce sens-là.
Mais c'est pas facile. Hein.
Et c'est peut-être pour ça aussi que, bon, là dernièrement, je te dis, il s'est blessé au mois de juin. Il s'est blessé dernièrement avec l'équipe de France. Peut-être que dans sa tête, il se dit systématiquement, je vais mettre 4 joueurs offensifs. Et même quand Dembélé est absent, il met les 4 joueurs offensifs, peut-être pour intégrer un peu plus Dembélé dans l'axe au bout d'un moment.
Possible. Tiens, accueillons c'est Demba, possible. Supporter parisien qui nous rejoint en 32-16, Jérôme.
Salut Demba.
Bonsoir Jérôme, bonsoir Jean-Michel, bonsoir JPP.
Bonsoir Demba,
ça va? Salut.
Salut Demba.
Demba, est-ce qu'il a changé de dimension alors?
Oui, là effectivement, là il rentre dans une autre dimension, ça va plus être le même. Il va être beaucoup plus sollicité. Donc déjà là ce soir, il fait le 20h de TF1. Toutes ces performances, elles vont être scrutées par tout le monde dans le monde entier, et puis même sur le terrain. C'est-à-dire que là, la saison qu'il fait l'année dernière, va falloir qu'il fasse la même, voire mieux. Parce que là aujourd'hui, les Ballons d'Or et en équipe de France, moi j'ai personnellement pas de match référence. De Ousmane Dembélé.
Ah, c'est vrai.
C'est-à-dire, il est là à la Coupe du Monde 2018, mais personnellement, il n'arrive pas à s'imposer. C'est Matuidi qui joue sur le côté gauche. L'Euro 2021, un flop. La dernière Coupe du Monde, pareil, je n'ai pas vraiment de souvenirs. Même en finale, Didier Deschamps le sort très tôt. Il provoque le pénalty. Je crois que c'est faute sur Di Maria, c'est Messi qui marque, je crois que c'est ça.
Ouais, mais il sort rapidement.
Donc, ouais, c'est ça, il sort très rapidement. Donc là, en fait, là maintenant, c'est plus le même. C'est-à-dire que il y a même des gens qui n'ont regardé pas le Paris Saint-Germain, ils vont dire tiens, on va regarder le PSG parce qu'il y a Dembélé, les Ballons d'Or.
Ouais, mais c'est plus le même joueur hein. Aujourd'hui. Dembélé, quand on parlait de dimension qui change, sa dernière année, elle l'a forcément fait évoluer. Dans l'importance qu'il a dans les équipes où il joue aujourd'hui, c'est le cas au Paris Saint-Germain, ça doit être le cas avec l'équipe de France. Pour l'instant, moi je reste persuadé qu'avec l'équipe de France, il est sous-exploité pour l'instant, et en plus derrière, pour aller dans le sens de Didier Deschamps, il s'est blessé au mois de juin et il s'est blessé là sur le dernier rassemblement. Donc bon, on va dire que il y a un point d'interrogation et que Didier Deschamps il y réfléchit, mais il est obligé d'y réfléchir. Mais et en Jérôme... plus où là il a été intelligent, je vais vous dire, Dembélé hier dans son discours, il a remercié Didier Deschamps
en disant il a dit Deschamps, voilà.
Donc si tu veux Je sais, Didier, il adore ça. Mais il le dira pas. Jérôme, il adore ça au fond de lui. Il se dit là, au fond de lui, tu sais ce qu'il se dit là. Il se dit, putain, il est Ballon d'Or un peu grâce à moi, mes conseils.
Non, Didier, voilà.
Didier, il est comme ça. Là, on l'a vu sur sa tête, le petit rictus. Je le connais, Didier. Mais oui, tu veux pas venir dans Rotten
Sans Flamme. Il est Ballon d'Or grâce à toi, Jérôme.
Jérôme, il se dit, merde, il y a pensé.
Ouais. C'est ça. Ouais, exactement, Didier. On t'a vu, bon, on te connaît.
Un grand merci à Demba qui est venu au 32-16. Ouais. Non, mais l'enjeu, il est là pour lui, JPP. Tu disais, toi, tu l'as connu cette situation. Il va falloir assumer ce ballon d'or sur le terrain, en club et en sélection. Quoi. C'est ça qui est important.
Alors, le plus compliqué, c'est essayer de ne pas changer, essayer de rester comme on est aujourd'hui. Parce que je pense que lui, il est capable. Je pense qu'il a cette simplicité pour rester à sa place. Même s'il a changé, même s'il a évolué, même s'il est passé dans un monde différent, voilà, qui reste lui-même, comme il nous a ému hier, voilà, qui reste dans ce type-là en fait, qui soit grand sur le terrain et après qui soit simple dans la vie, et ça va se passer tout seul.
Les conseils d'un Ballon d'Or français pour un autre Ballon d'Or.
Ousmane Dembélé,
les bons conseils. Un grand merci à Fabrice Hawkins qui nous a livré les coulisses.
Merci
de cette
Fabrice.
Soirée magique. Merci Fabrice,
et
à bientôt.
Didier.
Grand merci à Demba, et dans un instant dans Rotten sans flamme. Bien sûr qu'il est Ballon d'Or de l'info. T'inquiète pas.
C'est fou
Fabrice, il a toutes les bonnes infos.
C'est fou que Didier pense que c'est grâce à lui.
Mais arrête de chauffer, toi. Oh là là.
Jean-Michel, tu trouves ça logique, toi, ou
Bien sûr que c'est logique.
Vous êtes plusieurs à l'avoir mis sur la plus haute marche du podium. Tu en fais partie, Jérôme,
oui.
Bien sûr.
Ah, Didier. Ouais, Didier.
Non, mais toi aussi, t'es un peu responsable du Ballon d'Or d'Ousmane.
Ah non, je croyais que vous me parliez de la réussite en tant que coach de Didier Deschamps. Que je l'avais lancé. Oui, bah oui, c'est vrai, c'est sûr. Un peu ça.
Lors de votre dernière entrevue, quand il était à Évreux, là,
mais, oui, bien sûr.
Ça rappelle.
Mais, sûr, il aurait pu m'aider à l'époque pour avoir le Ballon d'Or, parce que j'étais proche en 2004.
Bah oui, t'étais pas loin.
Et pourquoi il a pas.
C'est vrai. Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h. Dans un instant, la VAR de Rotten sans flamme. Est-ce que Pierre Sage fait des miracles à Lens? Et puis Eric Roy, qui nous avait rendu visite dans le courant du mois d'octobre, il était revenu sur la magnifique saison que Brest avait vécue l'an passé. À tout de suite sur
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Des best-of toute la semaine avant de retrouver Jérôme et toute l'équipe dès lundi prochain, 18h-20h du lundi au vendredi. Dans un instant, Pierre Sage fait-il des miracles à Lens? Eric Roy qui va revenir sur la saison du Stade Brestois, et puis à 19h45, les quiz de Rotten sans flamme. Un quiz mythique avec Christophe Dugarry et Eric Dimeco, un autre avec Pascal Olmeta et Jean-Michel Larquet. Tout de suite, on parle donc de Pierre Sage et du harcèlement.
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Alors, j'étais loin d'imaginer que ce soit aussi bien. Il y a une règle ensuite qui est très importante dans notre métier, c'est la notion d'efficacité. Donc on a beau s'engager beaucoup, ensuite il faut arriver à avoir du succès. Sur ce plan-là, non, je ne pensais pas qu'on allait avoir ce rythme aussi rapide, mais... Vous savez, au début, on s'entend toujours très bien avec la belle-mère, on s'entend toujours très bien aussi avec la nouvelle épouse. Donc, ce qui est important, c'est que ça dure.
La VAR de Rotten sans flamme.
À mon avis, ça sent le vécu.
Peut-être, oui. Entretien.
À mon avis, il la déteste aujourd'hui, la belle-mère.
De Pierre Sage, réalisé par Jean Baumel, à retrouver sur rmcsport.fr. Donc, cette belle histoire d'amour en train de naître entre le Racing et Pierre Sage. Excellent début de saison des Lensois. 12 matchs, 8 victoires, 1 nul, 3 défaites. C'est le même bilan que l'OM, à 2 points du Paris Saint-Germain, leader de Ligue 1. La deuxième expérience pour Pierre Sage en championnat de France, en Ligue 1. Il a 46 ans. Il avait coaché l'OL 18 mois entre décembre 2023 et janvier 2025. L'an dernier, on rappelle que Lens avait terminé 8e. Est-ce qu'il fait des miracles à Lens, Pierre Sage, Jérôme? Est-ce que t'es bluffé par ce qui se passe?
Bah, je suis bluffé parce que déjà en très peu de temps, on en parlait avec Jonathan Gratti, et le défenseur du RC Lens il y a quelques jours, et c'est vrai que il me confirmait ce que je vois. Moi, c'est, j'ai l'impression qu'il est là depuis 5 ans, Pierre Sage, alors que c'est récent. Une équipe qui a été aussi construite sur le tard, parce que il y a eu un bon travail de fait de Jean-Loup Leca, dans le recrutement. Et c'est vrai qu'ils ont été souvent à la recherche de l'attaquant, parce que c'est ce qui leur faisait faux bond. Et l'année dernière, on le voyait aussi. Il y a eu l'arrivée de Thauvin pour dynamiser un peu tout
Thauvin,
ça, apporter de l'expérience.
Édouard,
les deux, ils s'entendent à merveille. On l'a vu sur le match contre Monaco. Mmh. Et puis et surtout Sangaré au milieu de terrain, parce que lui, moi, je suis amoureux de ce joueur-là.
Il est
incroyable. Donc en fait, ce collectif. Udol, côté gauche, c'est pareil, c'est des bonnes recrues, en fait, ils ne sont pas trompés Le collectif, il a vite pris, parce que Pierre Sage a certainement cette capacité, si tu veux, à bien faire vivre son groupe, à tirer le max très vite de ce collectif. Et puis après, tactiquement, bon, il invente rien. Il joue à trois derrière. Ils l'ont déjà fait.
Il y a plusieurs façons de jouer à trois derrière.
Non, mais ils l'ont déjà fait avec Francaise. Ils avaient été surprenants. Je pense que c'est exactement ce qu'il faut à ce collectif et à ce club.
Thomas Bourgeois de Pierre Sage, là.
Non, mais c'est pas tomber amoureux.
J'espère qu'il fait son mea culpa quand même, là, du coup.
Bon, il n'y a pas de mea culpa à faire, Eric. Dire pourquoi mea culpa. Je ne l'ai pas attaqué, Pierre Sage, moi, quand il a signé à Lens.
À peine.
Ben non, mais je l'ai attaqué quand il était à Lyon, parce qu'il n'était pas à la hauteur des ambitions de Lyon.
Là, il est.
Et tu le vois à Lyon, avec l'arrivée de Fonseca, je pense qu'ils ont passé un cap quand même. Après, ça ne veut pas dire qu'avec Pierre Sage, ils auraient stagné ou ils auraient régressé. C'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis juste que pour rebondir, en effet, Pierre Sage, c'était l'endroit idéal. Et là, il est en train de montrer que il est ambitieux. J'aime bien son discours. J'aime bien dernièrement ses réactions, même s'il a tendance à m'endormir quand il est en conf de presse. Mais j'aime bien ses réactions parce qu'il est un peu plus lucide sur la situation. Et puis franchement, gagner 4-1 face à un candidat pour l'Europe, parce que Monaco est un candidat aux places européennes, même si Monaco a pris un carton rouge et on revient sur l'arbitrage, mais bon, voilà, ça a joué beaucoup sur l'ensemble du match. Mais sur le match là au Stade Louis II, il n'y a quand même pas eu photo. Hein.
Duga, c'est un miracle ce qu'est en train de réaliser Pierre Sage?
Ouais, forcément, personne s'attendait à ce qu'un gars qui sort comme ça de la formation et qui était prévu normalement pour y rester. Faut quand même pas oublier, ça a été un concours de circonstances qui a fait qu'il a pris Lyon et moi j'ai envie de féliciter, alors bien évidemment Pierre Sage, mais surtout les dirigeants qui ont eu le courage de le prendre et qui ont vu en ce monsieur, en son passage à Lyon. Alors c'est vrai qu'il a eu un bon passage à Lyon, ça s'est très très bien passé au début. Après ça a été un petit peu plus compliqué de tenir la distance, mais voilà, ils ont senti quelque chose chez ce monsieur là donc il est justement récompensé. Moi je suis content parce qu'on a quand même beaucoup d'entraîneurs étrangers en Ligue 1, donc moi je suis content de voir qu'un entraîneur avec une attitude assez simple, tu vois, il y a pas de chichi, il y a pas de cinéma, il en fait pas des caisses, voilà, c'est pas la fausse modestie à la deuxième Derby. Voilà, moi je trouve que voilà, le mec il fait les choses,
c'est fou.
Mais oui, mais parce qu'il m'agace, non. il m'agace parce qu'il a une Ferrari, il est fait jouer comme une 4L, donc il m'agace et en plus il est toujours en train de se plaindre. Donc voilà, et lui il se plaint pas, il a des résultats, il travaille, il dit les choses simplement. Alors il endort Jérôme, moi je trouve qu'au contraire de parler comme ça comme il le fait, voilà, non, je trouve que c'est très bien.
C'est bien
évidemment, c'est du chambrage plus qu'autre chose. Il n'y a pas de souci, Jérôme. Mais ouais, voilà, moi je trouve qu'il fait les choses simplement, avec efficacité. Donc voilà, moi je trouve qu'il n'y a pas de chichi, il s'enflamme pas, il se prend pas pour un autre. Et des fois, ça peut même me surprendre, parce que c'est vrai que dans le foot ou dans le sport de haut niveau, t'as envie de croire que parce que les mecs ils vont montrer les muscles, ils vont faire beaucoup de cinéma, tu crois qu'ils sont plus importants ou qu'ils sont meilleurs que les autres. Non, lui il fait les choses avec simplicité. Et moi je trouve ça, à l'image d'un mec comme Eric Roy ou des trucs comme ça qui ont des résultats avec simplicité, j'aime c'est les gens qui dégagent une espèce de truc comme ça sans fausse modestie.
La voilà, sérénité. Eric.
Ouais, moi je suis content pour lui parce que il a été égratigné à Lyon et pourtant moi je trouve qu'il avait fait du bon boulot et là on se rend compte, parce que Jérôme tu dis il a rien inventé, mais il a inventé quand même une équipe et un club qui était avec de gros problèmes, puisque la plupart de nos clubs ont eu de gros problèmes cet été, hein, obligés de vendre, obligés de serrer la vis financièrement, voilà, donc c'est là où c'est énorme ce qu'il fait et il faut le mettre en avant, c'est que c'est une équipe qui est promise à souffrir cette année quand tu regardes un petit peu ce qui se passe en début de saison et à l'intersaison, voilà, et donc et il arrive malgré tout à être tout là-haut. Alors je sais pas si ils y resteront parce que je suis encore, tu sais, dans ce championnat.
Ils peuvent
y rester. Hein.
Tiens, je peux vous faire écouter la décla du week-end signée Emmanuel Emega. Il était de retour, deuxième match avec Strasbourg. C'est lui qui marque le doublé face à Lille. Et écoutez, lui, il a l'explication des résultats en dents de scie de Strasbourg cette dernière semaine. Écoutez.
Oui, vous aviez perdu contre Marseille, Monaco. Là, vous battez Lille.
Contre Monaco, j'étais pas là. Contre PSG, j'étais pas là. Lille, that's it.
Lille Zaxit. Voilà. Contre Monaco, j'étais pas là. Voilà. L'autre fois, j'étais pas
il
là.
Est bon, il est
là,
bon.
J'étais là.
Il est bon.
Et
bon,
il a raison, pas, en plus. Les gars.
Ah ouais, oui, il a raison.
Il a raison, en plus.
Elle a raison, ouais. Tous les.
On l'aime bien, mes gars, quand même. Il a un franc-parler et tout. Il nous régale.
C'est surtout que c'est un bon joueur. Joueur.
Hein. Ouais, sacré ouais. Joueur. Exactement.
Je vais te dire, quand il sort le match contre l'OM, il nous fait du bien, quand il sort.
Ah ouais.
Bon, après,
c'est pour ça que vous gagnez avec beaucoup de réussite. Mais bon, vu que vous êtes une grande équipe, Eric, normalement, il n'y aura pas de problème.
Arrêtez avec l'OM.
Pas de problème.
Arrêtez un peu. Dans un instant, le quiz de Rotten sans flamme.
Le plus dur est passé, quand même.
Tous contre Rotten.
Arrêtez avec l'OM. Le mec, il nous fait des sujets tous les jours sur l'OM. Et après, il nous dit arrêtez avec l'OM. Non, mais le mec.
Ce qui est bien, c'est que la honte, elle n'a pas de figure. Avec lui, il y a une figure, la honte.
Moi, j'ai qu'un truc à vous dire. Arrêtez avec l'OM et arrêtez avec l'arbitrage, s'il vous plaît. OK ? Il y en a marre.
Et du gars.
Jérôme, il sait plus quoi. Il a plus de débat, hein, si on arrête
tout
ça.
Et vous connaissez la meilleure quand même. Voilà. Hier, à la 94e, Benoît Boutron m'avait prévu une capture écran avec le classement, avec l'Olympique de Marseille devant.
Mais moi aussi, mais je le fais Stephen Brun. À chaque fois, il m'envoie la photo du calendrier du classement. Donc, ça fait deux fois le match où Ramos il marque à la fin et celui-là. Je fais capture d'écran à 5 minutes de la fin. Bim.
Attendons le coup de sifflet final avec la prochaine fois.
Tu l'emportes le noir.
Alors que pourquoi vous faites. Alors pourquoi nous on est contents pour l'Olympique de Marseille.
Allez, merci,
pourquoi vous faites ça?
Jérôme, je t'invite à écouter ça.
Non, mais je veux même pas en parler parce qu'après on va me dire ah mais Roy il pleure. Mais quand on voit le ralenti, mais j'ai vu le ralenti dans le vestiaire, mais ça fait froid dans le dos quoi.
La VAR de Rotten sans flamme.
Eh oui, un peu d'exaspération pour Éric Roy, entraîneur de Brest, qui est notre invité ce soir parce que ce week-end c'était le nul à Lorient 3 partout et il y a eu un tacle très appuyé sur Del Castillo qui n'a pas conduit à un carton rouge. Il est là, Éric Roy, avec nous, Jérôme.
Salut Éric.
Bonsoir les amis.
Bienvenue Éric.
Ça va.
Ça va mieux qu'hier.
Ah bah ouais, non, mais après c'était un beau derby, hein.
Ouais.
Les buts, les gens étaient contents, je pense. Et puis c'est vrai, on a tout souvent tendance à dire que les derbies, comme il y a beaucoup sur l'environnement, il y a beaucoup de choses, et que ça tue un peu l'enjeu et le jeu. Et donc là, il y a eu quand même du spectacle, donc quelque part c'est bien pour le foot.
Mais quand tu mènes deux fois au score comme ça, il doit y avoir un peu de frustration aussi.
Ouais, forcément de frustration. Puis j'ai envie de dire, quand tu marques 3 buts à l'extérieur et que tu gagnes pas les matchs, c'est pas la première fois que ça nous arrive cette année. Donc c'est vrai que c'est forcément frustrant. Ouais.
Pour évacuer le sujet, cette histoire de carton rouge pas donné et de seulement un carton jaune pour ce gros tacle sur Del Castillo, c'est oublié un jour après ou on l'a encore à travers de la gorge?
Non, mais moi, vous savez, alors maintenant, avec les pauvres, j'ai envie de dire les pauvres, les arbitres, c'est vraiment une problématique pour eux. Et puis j'ai vu l'arbitre après le match, mais j'ai dit, mais moi j'ai rien contre vous en fait. Parce que vous, sur le terrain, ça va très vite et tout ça. Bon, il se passe ce qui se passe, vous voyez pas les ralentis, mais puisque maintenant on a mis des outils, je comprends pas pourquoi on s'en sert pas. Quand ils disent quand même d'aller juste voir et de se faire sa propre opinion. Et après, on est tous d'accord que ça va être encore une interprétation, parce que quoi qu'il arrive, ça reste une interprétation. Donc lui, est-ce qu'il considérera qu'il a pris la bonne décision? Mais au moins qu'on lui propose d'aller le voir, quoi. Parce que franchement, quand on voit le geste, le joueur qui arrive avec le pied qui est décollé à 20
centimètres du sol, à vitesse réelle, ça fait peur.
Ouais. Ah oui, non, mais ça fait peur. Et bien même quand à vitesse réelle ou au ralenti, tout ce qu'on veut, ça fait peur. Et moi, comme j'ai dit à l'arbitre, franchement, je suis content que mon joueur soit encore sur ses deux pieds, quoi. Voilà, c'est tout. Parce que la réalité, ça aurait pu vraiment mal se terminer. Et qu'à un moment donné, on a vu des cartons rouges siffler des fois pour des pieds écrasés maintenant, des choses comme ça, des trucs où il n'y a même pas d'intention. Alors là, bon, voilà, mais c'est toujours pareil, c'est un manque de cohérence et des fois une incompréhension chez nous. Mais après, le match ne se joue pas là-dessus, c'est juste qu'on a eu peur et qu'à l'arrivée, moi, ce qui me met un peu plus hors de moi, c'est que moi, j'ai eu peur sur le banc de touche quand j'ai vu ça parce que c'était pas loin de moi. Mes joueurs ont eu peur sur le terrain aussi, sur le moment. Et que du coup, par rapport à leur réaction, à l'arrivée, le joueur l'orientait a pris un carton jaune. Et je crois que nous, on en a pris deux.
Deux cartons jaunes sur l'action.
Mais c'est pas une question de contestation, c'est juste parce qu'ils sont venus vers l'arbitre un peu effarés en lui disant « Ouais, 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 et comme on ne peut plus maintenant parler dans les nouveaux règlements à l'arbitre si on n'est pas le capitaine, eh ben, donc, d'une situation qui est quand même incroyable. À l'arrivée, c'est nous qui sommes sanctionnés. Mais bon, enfin, c'est comme ça.
Eric, on va pas parler de la première saison de Thierry au milieu, là. On va parler de la vraie première saison. Donc, où tu fais un résultat extraordinaire. On pense, tu es même élu meilleur entraîneur de Ligue 1, hein, si je me souviens bien, cette année-là. Donc, on avait fait des débats, nous, sur est-ce qu'il doit partir, profiter de cette saison-là pour partir plus haut. Tu es resté. Et moi, j'ai trouvé ça bien parce que tu as rendu au club ce qu'il t'avait donné. Il t'avait permis de revenir entraîner en Ligue 1. Donc, c'est dans le foot actuel, c'est plutôt bien à souligner. Par contre, moi, j'ai été étonné la saison dernière, puisque tu fais encore, moi, j'appelle ça un miracle, quand tu te qualifies en Ligue des Champions pour un barrage, alors que tu as le budget de Brest. Je pars du principe que tu as fait encore un miracle l'an dernier. Et j'ai été étonné. Que tu restes encore cette année. Et est-ce que tu n'as pas peur de regretter peut-être à un moment donné de pas être allé voir plus haut, plus tôt, quand tu avais fait ce qu'il fallait, quoi, quand tu as surperformé avec ton équipe?
Bah écoute, je sais pas, c'est l'avenir qui me le dira. Moi, en fait, mon véritable regret, en fait, Eric, c'est qu'à un moment donné, j'ai embrassé cette carrière un peu par obligation quand j'étais dans mon club formateur à Nice. Et que déjà à l'époque j'avais fait des choses pas trop mal quand même avec Nice, parce que Nice à l'époque c'était pas des budgets de maintenant et c'était déjà des plus petits budgets, et j'avais déjà sécurisé une première année pour sauver, et puis après j'avais maintenu l'équipe. Ce qui est dommage, c'est que derrière pendant 10 ans il y a personne qui m'ait fait confiance. Ouais. Donc c'est là où j'ai perdu du temps. Là maintenant à Brest aujourd'hui je travaille dans des bonnes conditions, j'ai une très bonne relation avec mon directeur sportif qui est un mec fantastique, même avec ma direction, j'ai pas de problème, je travaille dans des bonnes conditions, je suis heureux, épanoui, avec un staff qui est compétent, donc j'ai pas de problème par rapport à ça. Après, il est évident que si un très gros club ou des clubs importants étaient venus, c'était manifesté, et peut-être que voilà, mais en réalité, il n'y a pas eu quelque chose qui était... Ouais, j'ai eu des opportunités à l'étranger, dans des championnat aussi où tu peux gagner beaucoup plus d'argent, mais voilà, c'était en tous les cas pas la vision que j'avais de la suite pour moi, et aujourd'hui bah je suis pleinement concentré sur le fait d'être le plus performant possible avec le Stade Brest 29, et je suis très heureux d'être là. Maintenant après on sait très bien que la suite on sait jamais ce qui se passera, mais je suis pas sur le fait d'avoir des regrets ou pas des regrets, et puis ça sera plus tard.
Eric, le match de samedi, c'est face au PSG à Brest, ouais. 17h. Comment on le prépare quand on est coach de Brest? Le PSG, ça a été un souvenir difficile la saison dernière, notamment en Ligue des Champions. Ouais.
Eric, t'as prévu de rappeler Denis Charvet qui vous avait fait une
société d'avance?
Ça avait bien marché parce que vous en avez pris 7 derrière.
Ouais. On peut vous filer le numéro de Denis, carrément.
Ça t'avait marqué, effectivement. Et Denis, ouais, non, j'ai pas prévu quoi. J'ai pas prévu qu'il passe, même. Il faut dire que je suis tombé sur lui.
Mais tu es en train de nous expliquer qu'il s'est incrusté parce que lui nous a dit que c'était toi qui l'avais fait venir. Hein.
Non, on s'est croisé alors au Molitor, puisqu'on était au Molitor, et c'est vrai que du coup, il m'a parlé de l'équipe, et puis je lui ai dit, mais viens nous voir, il n'y a pas de problème, et tout ça. Donc il était venu, c'était plutôt.
Ça a pas trop marché.
Voilà, mais bon, si ça tenait qu'à Denis, hein, je vais vous dire, pour battre le PSG, ça serait top, hein, ça serait facile. mais bon, en tous les cas, non, ce qu'on a prévu déjà, c'est de les regarder demain tranquillement à la télé. Et puis après, en espérant que contre nous, ils fassent tourner un petit peu aussi. Mais bon,
ah oui. Ça c'est moins sûr.
Louis,
ça.
Louis nous respecte beaucoup, donc à chaque fois, il met sa meilleure équipe. Donc voilà, mais bon. Non, on va. Ce sens, ce match-là pour nous est un match bonus. On n'a rien à perdre dans ce genre de match. Voilà, le match pour nous le plus important, c'est celui qui suit 3-4 jours après où on va aller se déplacer au Havre, parce qu'aujourd'hui, malheureusement,
ouais,
c'est ça qui est important pour nous, c'est d'amortir aussi la redescente de ce qu'on avait vécu l'année dernière. Parce que voilà, entre les joueurs qui sont restés et qui quelque part espéraient. Et qui quelque part vivent aussi quelque part cette déception. Un club qui jouait la Ligue des Champions, et quand on regarde les matchs de semaine en Ligue des Champions, ben forcément t'es obligé de penser à ce que t'as vécu l'année dernière.
Oui, t'es un peu nostalgique.
Voilà, tes matchs de Ligue des Champions cette année, c'est le Havre, c'est l'Orient, c'est Nantes, et c'est la réalité. Donc bon. Ça aussi, c'est un travail qui est malgré tout intéressant, parce que ça ça remet déjà les choses dans son contexte et ça en plus ça te permet d'essayer d'actionner d'autres leviers pour que ton équipe elle reste performante et c'est pas facile dans ces conditions là, il faut le reconnaître.
Merci Eric,
bon, Eric
dans merci.
Rotten sans flamme. Bon courage. Bon courage, bon courage
bon
à bientôt.
Salut.
Bon
courage Giga avec Eric hein.
Voilà, ouais, les procès.
À cause que je supporte.
Ah ouais, j'en peux plus.
Bon. Merci Eric.
Ouais, il est pas beau, il est pas beau hein.
Allez. Ils vont rester
comme voté Eric, t'aurais voté pour qui toi ? Jérôme ou pour moi ?
Ouais, écoute, j'ai pas écouté le débat, alors je peux pas, non, je peux pas dire. Je suis branché 24h sur 24 sur votre émission, même si je vous écoute assez souvent. Mais bon.
Voilà.
Bon. Bah, merci Eric pour ton soutien.
Merci Eric.
Les grands moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h. Dans un instant, les quiz de Louis Gerbier. Le premier avec la doublette Dimeco Dugarry. Le deuxième avec la doublette All Metal Arché. À tout de suite sur RMC.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme.
Benoît Boutron.
Les meilleurs moments de Rotten sans flamme jusqu'à 20h ce soir sur RMC. Après, vous retrouverez l'after pour toute l'actu foot du jour. Mais on en profite de cette semaine de best-of pour revivre les meilleurs moments de Rotten sans flamme de la première partie de saison. Et la tradition à 19h45, ce sont les quiz de Louis Gerbier. C'est parti.
RMC. Tous contre Rotten.
Salut Louis.
Salut l'équipe.
Ah Louis, t'avais une question pour le jeu de la vérité, Jérôme.
Oui, j'avais une petite question pour le jeu de la vérité. Eric, c'est pour toi, as-tu déjà été infidèle ?
Non, la question que t'avais à Jérôme. Hein. Il est fou, celui-là. Il t'a demandé à combien t'as été flashé sur l'autoroute.
Et combien t'as été flashé sur l'autoroute ? En 2008, c'était 245.
Pas mal. Voilà. Ok, pas mal. À ne pas faire chez vous.
Moi, j'ai jamais été fidèle.
Non.
Quoi ?
Jamais infidèle à l'OM. Hein.
Non, mais il a dit infidèle. Il n'a pas réussi à le dire. Ilias et Anthony vont jouer ce soir. Salut à vous deux.
Salut les amis.
Il y a un super cadeau ce soir. Votre badge télépéage fully crédité de 150 euros de péage. Vraiment beau cadeau. Ilias, tu veux jouer avec Jérôme ou avec le reste du monde ?
Avec Jérôme.
Avec Jérôme et donc Anthony avec le reste du monde. C'est parti.
0-D avec Eric.
Allez Anthony. Voilà.
Ouais.
Anthony est dans ses toilettes. Ce soir, on va faire un thème Jérôme Rotten. Ça m'a été soufflé par un grand homme qui n'est autre que Benoît Boutron. Et c'était pas simple parce qu'il fallait trouver des questions équitables. À peu près équitables.
Eh oui.
Donc je remercie Arnaud Valadon, notre collègue, qui m'a donné pas mal d'idées. On y va. En quelle année est arrivé Jérôme Rotten à RMC ?
2010, la première émission, je l'ai faite avec lui. Il travaillait pas à RMC, il était consultant pour la Coupe du Monde.
Alors déjà,
pour rien trop de détails.
Ça c'est vrai, il y a trop de
détails. C'est bon, bah, c'est bon.
Du coup, il y a tellement de détails, on l'accepte, même si c'est pas vrai.
Pourquoi c'était
Oui, c'est vrai. On était sur les Champs-Élysées, Adidas, on était. C'est la première fois que je travaillais avec
lui.
On avait
considéré
avec Louis d'ailleurs.
C'est vrai, il y avait Louis. Après arrivé, c'était 2016, tu vois, parce que quand il est vraiment arrivé dans l'after régulièrement, tout ça.
Oui, mais c'est toi qui te trompes.
Il a fait tout du monde, il était consultant exactement. Officiel. Hein,
allez, 1-0 pour le reste.
Casqué et tout, plus que nous.
Ça, c'est la moindre des choses. Allez, question All Meta. Je l'ai fait gratos.
Jamais on t'énerve. Tu
emmènes
crochet du droit.
Tac, tac. Les deux touches.
Demain, c'est le jeu de la vérité avec Pascal.
Il sera en plateau, il sera en plateau ou pas ?
Peut-être.
Oh, ça va me coûter une blinde en garde du corps, cette affaire. Quel joueur ayant les mêmes initiales que Jérôme a traumatisé à vie Pablo Longoria. C'était dans l'actu il n'y a pas si longtemps. Il a les mêmes initiales.
Rowe, Jonathan Rowe.
Oui, bonne réponse.
Noter l'agressivité, c'est quelque chose d'inouï.
Et voilà, un partout.
Attends, mais tu gars, il a dit le prénom et le nom.
Tu l'as dit après.
Tu l'as dit après.
Il a dit le prénom et le nom. En réalité, Jérôme, il a éternué. Il a fait.
Allez,
un partout.
Quel joueur
il a fait rototo et on lui donne la réponse.
Oh, excellent, les galéjades, ça va se remplir, mais d'une vitesse. Quel joueur ayant les mêmes initiales a gagné le prix Puskás pour l'année 2014 ?
Ben James Rodriguez,
je me
suis
bien
joué. Pas mal.
Bien joué.
2-1 pour le reste du monde.
Mais puisque c'était Puskás, le prix, c'est quoi ? C'est le plus beau but de l'année. La volée en 8e de finale contre l'Uruguay, elle était incroyable.
Du gars, tu te souviens de ce but, la volée contre l'Uruguay.
Question auditeur. Non, j'ai oublié leur prénom.
Ilias contre Anthony.
Ilias Anthony, où a été formé Jérôme Rotten ?
À Caen ?
Non, j'ai dit où, pas Caen.
Hey, tu sais quoi, je vais te prendre toi, c'est allé au
galéjade. Je fais tout pour y finir.
Gêné, moi. Qui a dit quand, les gars ?
C'est Anthony.
C'est Anthony.
Ça fait 3-1.
Allez, question qui met.
Bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
On cherche donc un grand joueur. On cherche un joueur qui a joué à Caen et à Troyes, comme Jérôme. Il a été formé à Rodez, puis il est allé à Nantes. Après, il est passé par Troyes.
Il a répondu du gars.
Ensuite, il est allé à Lille. Ensuite, il est allé à Moucron. Il est revenu à Lille. Il est reparti à Caen. Il est allé à Guingamp.
Après... Rodelin.
Oui. Bonne réponse de Nicolas Ledru.
Ah ouais. C'est 3-2. Rodelin, tu l'avais pas du gars, non?
Ah quand même.
Non, je te cache pas.
Ah, ok.
Non, moi je l'avais. Moi.
Oui, il y a quand même en plus.
Réduction de l'écart. Deux minutes.
Une petite question con.
Mais pose des questions sur Jérôme quand même.
Ah oui, quand même.
Ah bah ça, oui, bah.
Alors la question con, à mon avis, elle va arriver.
Quel joueur passé par Ankara Gucci comme Jérôme
Coridon
n'est pas resté suffisamment dans la poêle?
Free.
Ah non. Ah. C'est pas suffisamment.
Saint-Étienne.
Cramé.
Ah non.
Cru.
Bah ouais. Naples.
Bleu.
Naples.
Naples, Saint-Étienne.
Oh, Naples, Saint-Étienne.
Kevin.
Mal cuit.
Oui.
Allez, 3 partout.
Il n'est pas resté assez longtemps dans la poêle. Il est mal cuit.
1 minute 20.
3 partout. Il faut aller le chercher, celui-là.
Question Larquet.
Francisca, code de Kinover pour les jeunes Kinover.
J'ai un biais, t'es un truand.
Du gars, il vient de dire c'est qui mal cuit.
C'est qui mal cuit?
Il a joué à Naples, tu sais, l'arrière droit.
Saint-Étienne. Contre quel club Jérôme a-t-il mis son premier but en Ligue 1?
Hein? Oh. Contre PSG.
Bonne réponse.
Oh, 4-3.
Ouais, mais ça a comment pris pour savoir ça?
Jérôme ou pas?
C'est un coup franc.
Mais qui c'est qui connaît ça? Personne. Même les parents de Jérôme.
Même lui l'a dit au hasard.
Ah, le score est remis à zéro.
Le score est remis à zéro, vous avez entendu? Balle de match.
Non, mais je réponds à du gars. Tu sais que mon père, il s'en souvient, t'en fais pas.
Ah oui, ton père.
J'en ai pas mis 15 000 des buts. Alors, je vais te dire.
Non, mais franchement.
Allez, score remis à zéro.
Quand la question ne concerne pas Jérôme, il se plaint. Quand elle concerne Jérôme, il se plaint.
Balle de match.
Allez, balle de match, évidemment, la question s'évident.
Ah, bah c'est pas forcément florichon un petit peu pour notre Ligue 1.
C'est quoi déjà ça?
Bah en fait la question Floridon. La question Savidan, c'est je vais citer tous les clubs d'un joueur et il a fait que des clubs pas hyper florichon quoi.
Ah ouais.
Comme Steve, non?
Mais quel rapport avec Jérôme du coup?
Non, c'est comme Steve, la question Savidan.
Il a joué à Caen et à Troyes comme Jérôme.
Ah.
Auxerre,
Châteauroux.
Et la victoire de Jérôme Rotten grâce à Benjamin Nivet.
Et
la victoire. Et la victoire d'Iliès.
C'était une émission pour Jérôme.
Qui remporte ce magnifique cadeau.
RMC.
Ça va, tu t'es mis un peu
tous contre Rotten.
Louis Gerbier est là, salut Louis.
Un peu d'apaisine sur les fesses là. Presque t'as pris vendredi.
Allez, vont s'approcher ce soir Florian et Guénaud. Salut à vous deux.
Salut Guénaud, salut Florian.
Guénaud, tu es supporter du PSG, tu veux jouer avec Jérôme?
Voilà.
N'hésite pas. Hein.
Guénaud, tu veux jouer avec Jérôme?
Oui, bah évidemment.
Et Florian,
bien sûr.
Et on va y aller les amis alors. Hier on a fait la question vérité avec Jérôme. Aujourd'hui ça sera sur Pascal Olmeta le thème.
Ah ouais.
Et oui. Et on commence par une question vérité comme hier. Pascal, tu préfères le TNT ou le C4? Non, bon, c'était une blague. Allez, on commence avec les vraies questions. Quel coéquipier de Pascal à l'Olympique Lyonnais fut également coéquipier de Jérôme Rotten à Monaco?
Ah, pas mal.
Julie.
Bonne réponse.
Julie, c'est qui Julie?
Oui, c'est
Ludo. Julie.
Julie Lesco.
Bon. 1-0 pour Jérôme.
Et ça aurait
Julie,
pu
aller... c'est ton ex. Hein. Ah,
c'est ton ex, Jérôme, Julie?
Oh, ça a dû faire partie. Ouais. Ouais.
Allez, 1-0 pour Jérôme.
Allez, Ludo. Bah, puisque c'est le thème.
C'est normal qu'il s'en souvienne.
C'est le thème question Olmeta.
Ah. Jamais, il s'en souvient pas. Mais...
tu en mets un crochet du droit.
Les deux touches.
Pascal a pris 3 cartons rouges en Ligue 1 contre Auxerre, Nantes et quel club?
Tu Paris.
Bonne réponse.
Loco. Ah oui, il fait voler un éclat, Loco. Hein. Je me rappelle de ça. Voilà.
Bravo. Ouais, bravo. Mais
Pascal, tu as le droit de répondre. Bravo, tu as le droit de répondre.
Et j'ai
le droit de répondre.
Bah oui,
ah oui,
j'ai une petite anecdote à ce sujet-là.
Ouais. Ah ouais, vas-y.
Et le, comment s'appelait-il ? Peu importe. Il est en train de monter les images et Pascal passe à côté du car montage. Et il l'interview en lui disant : mais Pascal, qu'est-ce qui vous prend à 35 mètres de votre but d'envoyer Patrice Loco en plage horizontale à 3 mètres du sol ? Et Pascal fait cette réponse incroyable : il dit : mais il n'y a rien là. Il hein n'y a rien. Il y avait Pascal, rien. On le mettait. Et non, ben, Loco qui était en lévitation au-dessus de la pelouse.
Écoute, ça,
y a rien. Y a rien.
Jean-Michel, je te remercie. Parce qu'on n'avait rien à mettre dans Rotten sans faux aujourd'hui. Et ben là, voilà.
Non, mais c'est très bien.
Voilà.
Très
là, bien. Tu me l'as fait le podcast. Merci, Jean-Michel.
Allez, un partout. Benoît, le faillot qui éclate de rire.
Non, mais l'autre. Qu'est-ce que tu
as. Mais respectez les anciens, ils sont malades, ceux-là.
Question auditeur.
Évidemment, ça t'intéresse.
Allez, on y va, on n'a pas beaucoup de temps. Question auditeur. Florian Guénon. Pascal Olmeta était finaliste de la Coupe du Monde, mais en quel sport ?
Soccer beach. Foot plage.
Ouais, voilà.
Ouais, beach soccer, quoi.
On va faire comme si on n'avait pas entendu Pascal répondre.
Bon, qui a répondu ?
Guénon.
Bah, ça fait 2-1 pour Jérôme et Guénon.
Yes. Question pour le patron.
Salut, c'est Jérôme Rotten.
RMC, la question pour le patron.
Avec Pascal ?
Ouais, tu vas voir.
Quel joueur présent dans la liste de 2006, contrairement à Jérôme, a le même prénom qu'Olmeta ?
Pascal
Chibonda.
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 Celui-là,
on l'a pas vu arriver, celui-là.
Celui-là, on l'a pas vu arriver, on l'a pas vu partir.
Ouais, lui, question flash, quel ancien Marseillais, et lui aussi présent dans la liste de 2006, décidément, tout le monde avait moyen d'y être, est né comme Pascal un 7 avril.
Ribéry.
Oh, oh oui. Oh joli, oh. Bravo.
Ah, il a déjà toutes les réponses.
4-1. Non, mais non.
4-1 pour Jérôme.
Je gagne sur ton terrain. Je suis intègre, moi. Ouais. Question d'Imec. Ouais.
Oh là, bravo, messieurs. Vous êtes des hommes, des grands hommes d'Europe.
On cherche un joueur qui, comme Pascal, a joué à Barcelone et à Paris. Bon, RC Paris espagnol, mais c'est la ville qui compte. Espagnol. Alors... il a joué au FC Barcelone, ensuite à l'Atlético Madrid, ensuite à Gênes. Ah non, pardon. Excusez-moi.
Mais qu'est-ce qu'il fait ?
Non, c'est pas lui. Hein.
Mais qu'est-ce que tu. Non, si, c'est ça, pardon. Il a joué à Gênes, à l'Inter et au Paris Saint-Germain. Pardon. Un saut de ligne.
À Gênes ? À Barcelone aussi ?
Barcelone, Paris Saint-Germain.
Christian.
Milieu de terrain.
Élégant.
Lucien Muller.
Manager aujourd'hui.
Ouais.
Leonardo.
Non.
Pas loin.
Oh là, Jean-Michel.
4-2, réduction de l'écart.
Qui c'est ?
Mota.
Thiago Mota.
Pascal, on vient de dire que tu as joué à l'Espagnol Barcelone. Tu y portais le numéro 14. Quel est le numéro 14 de l'OM ?
Cruyff.
De l'OM ? Cette saison.
Baxter.
Qui ?
Hein ?
Aubameyang, non.
Maxao.
Oui.
Maxao.
Oui.
Ah, bravo.
Mais là,
4-3, réduction de l'écart encore. La routine. Oh.
La bonne réponse vaut 3 points.
C'est donc une balle de match.
Non, mais arrêtez avec ça.
Balle de match.
Moi, je n'y peux rien. Alors moi, quand je mène, à chaque fois, c'est ça. C'est soit
les airs de 76. Balle de match. Question, non ?
Balle de match. Qu'est-ce que... Non. Il n'y a pas question. On va faire une question con pour finir.
Ah bah allez, ça m'étonne.
Pour Jérôme.
Ouais. Quel joueur champion d'Europe avec Marseille peut être au jambon, au fromage ou encore au cèpe ?
Sandwich, Angloma,
Boxiche,
champion d'Europe, Eddy, Deschamps.
Réfléchissez,
quoi, Moser, Boli.
Pensez au thème du jour.
Casoni.
Voleur.
Tovin.
Pascal Olmeta. Pas d'idée.
Oui.
Ouais, une omelette au fromage, oui. Une omelette au jambon.
Ça fait rire en plus. Oh, putain, et la victoire donc du Real.
Oui.
Merci
à Louis Gerbier, merci à Captain Larquet, un grand merci à Pascal Olmeta.
Et merci à tous de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain, 18h-20h, pour la suite des meilleurs moments de la première partie de saison de Rotten sans flamme. Je vous rappelle, retour de Jérôme et de toute la bande lundi prochain, le 5 janvier, 18h sur RMC. Bonne soirée.
RMC, les meilleurs moments de Rotten sans flamme. Retrouvez Roten sans flamme en direct chaque jour dès 18h sur RMC.